Nouveauté de la chanteuse Stéphane Moraes, c'était la pièce Supernova.
Au calendrier jazz, théâtre et musique classique à l'honneur, une année avec Hooder, Lepage, Jane, Gainsbourg ou Officer est forcément une bonne année pour le jazz. Plus que jamais, le Festival international de jazz de Montréal, FIJM, sera affaire de nids, de niches, de genres et de goûts pour cette 39e édition qui ira du 28 juin au 7 juillet. Certains iront pour le vétéran des musiques enracinées, Rye Cooder. D'autres du côté du nouveau spectacle de Jordan Officer, notre virtuose de la note essentielle, ou les René Lucier Quintet et Marc Ribot, peut-être, Ben Harper avec Charlie Musselwhite, ce sera du blues pour vrai. George Thorogood, ça va faire du bruit. Le projet Slave de Robert Lepage avec Ex Machina et Betty Bonifaci occupera le TNM pendant 3 semaines. Êtes-vous plus prog, psy? Prog, il y aura Soft Machine et l'éternel Jan Anderson pour les 50 ans de Jethro Tull. Êtes-vous pop, pop, pop? Vous bondirez avec Jane, la sensationnelle jeune française. Voyagerez avec Kimbra, exulterez avec Metronomy. Êtes-vous chanteuse, chanteur? Holly Cole revient, Didi Bridgewater et Mélanie Di Biasio, Itou. Entre autres, Seal, Bobby McFerrin, Buzz Sags. On avoue un parti pris pour Beth Hart, Mélissa Laveau, Charlotte Gainsbourg et notre exquise Berries. C'est un texte de Sylvain Cormier dans Le Devoir d'aujourd'hui. Il y en a aussi du jazz pour les purs, les durs, les plus ou moins purs et les plus ou moins durs du genre au-delà des champions consacrés. Retour d'Aldi Meola, Brian Blade, Terrence Blanchard et compagnie. On notera l'événementiel spectacle de Carla Bley avec l'Orchestre national de jazz de Montréal, ainsi que les multiples propositions du Dr. Lonnie Smith, de John Medivsky et de Mark Gugliana. Je vous en ai glissé un mot hier, mais maintenant on a tous les titres de la nouvelle programmation au Rideau Vert. Sa saison 2018-2019, la directrice artistique du Rideau Vert, Denise Filiatro, l'a voulu résolument féminine avec seulement des femmes à la mise en scène. On la voit ici, donc une photo dans Le Devoir, en compagnie des quatre complices qu'elle s'est choisie pour donner à sa 70e saison cette twist inédite, qui marque aussi une première pour le théâtre de la rue Saint-Denis. D'entrée de jeu, ce billet s'imprimera fortement avec Les Fées ont soif de Denise Boucher, pièce coup de gueule à laquelle va s'attaquer Sophie Clément. Cette dernière était de la création il y a 40 ans. En novembre, ce sera au tour de Nathalie Lecomte de tenir les rênes de la proverbiale revue de l'année 2018, revue et corrigée. Janvier verra la baguette tendue à Marie-France Lambert qui mettra en scène Art, A-R-T, une comédie grinçante sur l'amitié masculine signée Yasmina Reza. C'est une autre actrice qui reprendra le flambeau en mars. Marie-Thérèse Fortin dirigera en effet l'éducation de Rita. La reine des séans, Denise Filiatro, s'est réservée la clôture de la saison avec le Spunz, adapté du scénario de Pagnol, une satire qui pose un regard touchant sur le métier d'acteur. Alors que les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey battent leur plein sous la Sainte-Flanelle, Radio-Canada verse ce mercredi matin sur TouTV sa nouvelle série dramatique « Demain des hommes ». Et la production socio-sportive réussit de belle manière à s'enraciner dans le quotidien d'adolescents poussés par un rêve, sans évacuer du portrait la famille, la communauté, voire les enjeux du Québec loin des grands centres. C'est Philippe Papineau dans Le Devoir qui signe l'article intitulé « Demain des hommes ». Le hockey comme prétexte. La série, composée de 10 épisodes d'une heure, est écrite par Guillaume Vigneault et réalisée par Yves-Christian Fournier. Derrière Tout est parfait et noir. Les médias ont pu écouter 3 chapitres mardi et l'histoire évitait jusque-là beaucoup des pièges des séries sportives, en plus de nous accrocher aussi efficacement qu'aurait pu le faire un joueur d'hockey des années 90. Alors, voilà le duel entre le vétéran entraîneur-chef, incarné par Normand Damour, et son nouvel assistant, Émile Procloutier, s'avère savoureux. Vieux dinosaure contre jeune psychologue, la guerre reste à finir. Émile Procloutier, étonnant d'aisance dans cet univers, semble d'ailleurs être au centre de plusieurs filons de Demain des hommes. Celui de sa propre famille, mais aussi celui de l'équipe et de la petite ville où les partisans semblent bien aimer jouer au gérant d'estrade. Ce portrait Augustin Adeliche au sommet de la montagne, c'est Mario Girard qui a écrit le texte. Si vous avez toujours voulu savoir comment pouvait se dérouler la rencontre entre un orchestre symphonique et un soliste venu d'ailleurs, Dites-vous que tout passe essentiellement par la musique. J'ai assisté plus tôt cette semaine à la répétition qui réunissait le violoniste, Augustin Adelich, et l'Orchestre symphonique de Montréal en vue du concert présenté ce soir dans le cadre du Festival nordique. Après avoir joué dimanche soir à Manchester, en Angleterre, Adelich a posé le pied à Montréal lundi vers 15h. 2 heures plus tard, son Stradivarius sous le bras, il se pointait sur la scène de la Maison symphonique en compagnie du chef invité John Storgard. Ce dernier a brièvement présenté le virtuose aux musiciens qui ont exprimé leur joie en tapant du pied. Le chef a levé les bras et tout ce beau monde a plongé illico dans le sublime concerto pour violon en ré majeur de Tchaïkovski. Le langage du quatrième art faisait son œuvre. Immédiatement après la première grande envolée du soliste, l'orchestre a fait entendre le célèbre thème du concerto, le seul que le compositeur russe ait composé pour le violon. Augustin Adelich a alors savouré cet instant en souriant. Installé avec lui dans un salon après la répétition, je lui ai d'abord demandé si ce moment était pour lui la première occasion de vérifier la richesse de l'orchestre. En fait, dès les premières secondes, je peux voir ce dont un orchestre est capable. Pour être franc, je souris toujours durant ce passage. Il me procure le sentiment d'être arrivé au sommet de la montagne. C'est comme si j'étais en haut d'une montagne et que le vent entrait dans mes cheveux. Celui que le magazine Musical America a récemment sacré « instrumentiste de l'année » remplace la violoniste Hilary Hahn qui, enceinte de son deuxième enfant, a dû annuler sa présence à Montréal. On a pensé à Augustin Adelich qui a une longue histoire avec ce concerto pour violon considéré par plusieurs comme étant le plus difficile du monde. Fait à noter, ce n'est pas la première fois que Adelich et Storgard, le chef d'origine finlandaise au pupitre ce soir, sont réunis autour de cette œuvre. « Nous avons présenté ce concerto tous les deux il y a 2 ans à Vancouver », raconte Augustin Adelich. « Je dois dire que ma présence à Montréal n'a pas été facile à insérer dans mon calendrier, mais j'avais très envie de venir dans le cadre de cet événement spécial. » Vu comme l'un des plus grands musiciens de sa génération, Augustin Adelich a choisi de vivre à New York il y a 14 ans après des études à la Juilliard School. Il s'empresse de préciser qu'il a fait sa formation en même temps qu'Andrew Wan, violon solo de l'OSM. Les violonistes semblaient d'ailleurs très heureux de se retrouver après la répétition de lundi. Né en Allemagne, Augustin a passé le plus clair de son temps, de son enfance, en Italie. Son père musicien lui a enseigné dès l'âge de 5 ans les rudiments du violon. Le garçon a rapidement montré des aptitudes. Mais un accident survenu quand il avait 15 ans est venu freiner l'élan du jeune virtuose. L'incendie d'un tracteur dans le vignoble que possèdent ses parents a brûlé le visage et le haut du corps de l'adolescent. Quant à ses bras, ils ont perdu de leur agilité et de leur souplesse. Plusieurs greffes cutanées ont été nécessaires. Quand j'aborde cette difficile période de sa vie, les yeux d'Augustin Adelich s'embuent. Quand j'ai recommencé à rejouer du violon 1 an après l'accident, mes doigts se souvenaient de ce qu'ils devaient faire, mais j'ai réalisé que je devais travailler très fort pour les aider. Au bout de 3 ans de travail, j'ai repris confiance. Cette expérience m'a permis de remettre les choses en perspective. Cela m'a permis de voir quelle place prenait la musique dans ma vie et quelles étaient mes véritables valeurs. Je lui demande s'il croit être un combattant. Il est gêné par ma question et l'esquive. Je récidive en lui disant qu'il est sans nul doute une grande source d'inspiration pour beaucoup de jeunes qui connaissent une épreuve difficile à l'adolescence. « Vous croyez vraiment? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu les choses comme ça. Je sais tout simplement qu'après cet accident, j'ai voulu rapidement m'en sortir. J'ai réalisé que perdre lors d'une compétition ou d'un concours, ce n'était vraiment pas grave. Il est clair que je suis ressorti de cette expérience beaucoup plus fort. Augustin Adelich vient d'avoir 34 ans. Il multiplie les voyages pour jouer sur toutes les scènes du monde. Son répertoire est vaste. Quant aux prix et aux honneurs qu'il a remportés, on ne les compte plus. Serait-il en train de vivre la plus belle période de sa vie? Je crois que je pourrais mieux vous décrire ce que je vis en ce moment dans une dizaine d'années. Chose certaine, la différence entre le musicien que je suis aujourd'hui et celui que j'étais à 20 ans, c'est l'expérience. Cette expérience est basée sur les œuvres que j'ai interprétées, mais aussi sur les chefs que j'ai rencontrés. La première fois qu'Augustin Adelich a commencé à travailler le concerto en ré majeur de Tchaïkovski, il avait 8 ans. Et la première fois qu'il l'a interprété, il en avait 13. C'est ça qui est merveilleux. Quand on est musicien, on peut interpréter la même œuvre plusieurs fois dans une vie, et chaque fois, l'expérience est différente. Je ne me lasse pas d'interpréter ce concerto.
Certains soirs, tu t'ennuies trop, regarde dans le ciel, tu pourras voir comme une lumière qui avance lentement. D'abord, on croit en une étoile, c'en est pas une, c'est moi dans un Spoutnik. Si tu penses que c'est trop petit pour un comme moi et mon gabarit, faut dire ce n'est pas mon corps qui voyage. Moi je suis dans mon lit, mais mon esprit lui est dans un Spoutnik. Six milliards de solitude, six milliards ça fait beaucoup. Six milliards de solitude, six milliards ça fait beaucoup. De l'ensemble. Ce que j'y fais ne regarde personne, mais puisque tu me le demandes si gentiment, je vais te le dire ce que j'y cherche. Tout simplement, juste un endroit à mettre à l'envers et poser mon Spoutnik. Poser là mon satellite, où c'est la fête, où les gens ne s'en font plus pour quelques heures, mais qui retourneront là d'où ils viennent, plus fort, plus vrai, à demi invincible. Six milliards de solitude, six milliards ça fait beaucoup. 6 milliards de solitude, 6 milliards ça fait beaucoup. Le seul ensemble, 6 milliards de solitude, 6 milliards ça fait beaucoup. 6 milliards de solitude, 6 milliards ça fait beaucoup. Seul ensemble.
Daniel Bélanger, qui nous rappelait qu'en 2002, nous étions 6 milliards depuis la population mondiale a franchi le cap des 7 milliards et demi de population. C'était donc la pièce Dans un Spoutnik.
Et un ajout à ce que je vous ai lu à propos du musicien violoniste Augustin Adelich, il est en concert ce soir à la Maison Symphonique. Santé publique, Francine Pelletier, son article ou sa chronique s'intitule « Le bon, le mauvais et le plastique ». Véritable plaie des temps modernes, le plastique a complètement envahi la planète depuis 60 ans. De la calotte polaire jusqu'à nos propres cellules, rappelait Le Devoir samedi dernier. On parle ici d'un fléau équivalent au changement climatique pour la survie humaine. Il s'agit, après tout, de produits chimiques dérivés du pétrole qui, de plus, ne se décomposent pas en plein air et qu'on ne réussit guère à recycler. 9% seulement. À l'échelle planétaire. Voilà pour la mauvaise nouvelle. La bonne maintenant. Le plastique faisant désormais partie de nos corps, l'urine ou le sang de 91 % des Canadiens de 7 à 79 ans contient une de ces composantes toxiques, le BPA. Pardon. Il s'agit donc non seulement d'un problème environnemental, mais également de santé. Pourquoi s'en réjouir? Parce que les problèmes environnementaux, à juger du peu que font nos gouvernements à cet égard, on s'en balance, alors que les problèmes de santé, on s'en occupe la plupart du temps. La santé se retrouve d'ailleurs toujours en haut de liste lorsqu'on sonde la population canadienne sur ses priorités. L'environnement est toujours loin derrière. Comme le dit l'auteur de « Slow Death by Rubber Duck », Rick Smith, une fois qu'une question devient une préoccupation de santé publique, elle est beaucoup plus susceptible d'être remarquée par les gens, reprise par nos élus et par conséquent résolue. L'auteur et PDG de l'Institut Broadband rappelle qu'on s'est réellement préoccupé de la cigarette une fois que la question de la fumée secondaire a réussi à attirer l'attention. À partir du moment où il s'agissait d'un problème de santé plus large, pas seulement celui du fumeur individuel, le besoin de changer les normes est devenu incontournable pour les compagnies de tabac, même les plus récalcitrantes, dit-il. Comment le plastique affecte-t-il votre santé? En imitant l'estrogène, une hormone féminine, le bisphénol A, BPA, peut dérégler le système endocrinien. Tout indique d'ailleurs qu'il s'agit d'un facteur important dans les problèmes de fertilité très répandus aujourd'hui. Au Canada, l'infertilité a triplé en 15 ans, passant d'un taux de 5,4 % en 1984 à 15,7 % en 2011. Elle grimpe jusqu'à 20. Et je poursuis, elle grimpe jusqu'à 20,7 % chez les couples dont les femmes ont de 40 à 44 ans. Mais c'est la fertilité des hommes qui, en fait, inquiète le plus. Le taux de sperme des hommes occidentaux a chuté de façon marquée de 1973 à 2011, passant de 99 millions par millilitre à 47,1 millions, une baisse de 52 %. En bas de 40 millions par millilitre, la reproduction humaine s'avère improbable. Le nombre de spermatozoïdes, c'est le canari dans la mine, dit l'ex-épidémiologiste en chef des forces armées israéliennes, Agal Levin, et auteur d'une étude sur le sujet. « Il y a quelque chose de déréglé dans l'environnement », conclut-il. Bien que d'autres facteurs impactent également la fertilité, le tabagisme et l'obésité notamment, une telle dégringolade aussi largement répandue indique un facteur extérieur et relativement nouveau. Le futur de la reproduction humaine est en jeu ici, comme le rappelle le Dr Levin, et pourtant, plutôt que de s'atteler à restreindre l'utilisation de produits plastifiés, comme vient de le faire la Grande-Bretagne en interdisant les produits de plastique à usage unique, nous avons droit, encore une fois, aux propos lénifiants du premier ministre Trudeau. Nous sommes conscients du défi considérable pour les océans, sans s'engager dans des actions immédiates pour autant. Comble de l'absurdité, plutôt que de s'attaquer à l'omniprésence du plastique, on s'apprête plutôt à revoir la législation concernant les mères porteuses. Fort de l'appui de couples gays ou infertiles, le député fédéral Anthony Hausfather déposera bientôt un projet de loi pour permettre aux femmes de louer leur ventre en échange d'argent, ce que la loi a toujours interdit jusqu'à maintenant. Une proposition aberrante, disons-le, qui ouvre la porte non seulement à l'exploitation de femmes démunies, mais aussi la perversion de la notion même de maternité comme celle d'ailleurs de l'héritage biologique. Cette façon de chercher midi à 14 heures est malheureusement typique de l'attitude qui prévaut en matière d'environnement. Plutôt que d'inciter la population à changer ses habitudes de vie, comme le gros bon sens nous y convie, nos gouvernements s'en remettent plutôt aux dieux de la technologie, peu importe les risques, les coûts ou, dans le cas qui nous occupe, le manque flagrant d'éthique. Cherchez l'erreur. C'est déjà tout pour l'émission Le quotidien des quotidiens de ce mercredi 25 avril 2018. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci d'avoir été avec nous et j'espère que vous allez être des nôtres puisque dans un petit moment, j'anime les paractualités. Alors restez là. Puis un grand merci aussi à Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical.